Avec Aurélien Boucher, avec Delphine. Aurélien Boucher qui est guide, conférencier, historien. Et bonjour à vous.
Bonjour.
Et on va parler de Jeanne d'Arc, notre Jeanne d'Arc nationale.
Et je crois que je vais boire ces paroles.
Et oui, donc Jeanne d'Arc, c'est la belle histoire. On parle toujours des vignes de Jeanne d'Arc avec Orléans, avec Reims. Un petit peu Troyes où elle est passée et tout le monde oublie qu'elle est passée par Châlons pendant son périple en 1429. Elle va y passer deux jours à Châlons, 14 juillet 1429, c'est 14 juillet avant l'heure, oui. 15 juillet le lendemain. Et ce sont deux jours véritablement qui vont complètement changer l'histoire de France et l'histoire de la fameuse guerre de Cent Ans. Alors si on reprend les origines, on a l'épisode des rois maudits, qu'on connaît bien en littérature. C'est tous ces rois de France qui meurent sans descendants. On est en 1329 et on se dit, bah voilà, qui succède au roi? Ses frères étaient rois, pas d'enfants. Il a une sœur, le roi de France défunt, Isabelle, mariée à un noble anglais qui devient roi d'Angleterre, donc ça se complique. Et on se dit, bah, les enfants du couple peuvent être roi d'Angleterre et roi de France.
Puis les femmes n'avaient pas trop
leur
mot à dire.
Oui, hein. Là c'est la première fois où ça se passe en France, et les Français pas d'accord vont dire, on invente la loi salique, héritier masculin direct peuvent être rois, pas les femmes. Donc c'est l'époque où on décide qu'il n'y aura pas de reine Élisabeth en France, en gros. Et donc on va désigner un Valois, cousin du roi, et les Anglais pas d'accord envahissent la France, et c'est ce qu'on connaît, la Normandie devient anglaise, Calais, la région de Bordeaux. Et quand Jeanne d'Arc vient au monde en 1412, on est en très mauvaise posture. Le roi de l'époque, c'est Charles VI, surnom Charles VI le fou. Il part à la chasse, et des fois il se met à hurler, il sort l'épée, il veut décapiter les gens qui sont autour de lui. Voilà, il avait des gros soucis psychiatriques, on peut le dire. Et donc la reine devient régente, on a une femme au pouvoir, et elle lui fait signer contraint et forcé en 1420 le traité de Troyes. Bah, ça dit en gros que le roi est fou, sa mère est folle, les enfants n'auront pas le trône, au cas où la folie se transmette. Donc on a tout prévu à l'époque.
Est-ce qu'il y avait des problèmes de consanguinité à cette période?
Oui, il y en avait effectivement. Alors, c'est pas encore ce qui va se passer avec les Habsbourg, mais voilà. Il y a des fois, comme avec les Russes, ou beaucoup plus tard, on va avoir l'hémophilie. On le savait, et malheureusement, ils se sont mariés, et ça a donné ce problème. On a ce souci-là aussi avec les rois de France à une époque.
Et puis tous les enfants qui n'étaient pas reconnus,
voilà,
en plus,
aussi, donc oui.
Même sans le savoir, les problèmes de consanguinité existaient.
Oui, il y en avait pas mal. Donc ouais. ça nous fait la pagaille à cette époque-là. On a Azincourt en 1415, qui est un désastre pour la chevalerie française. Et au final, le roi de France meurt en 1422. Le roi d'Angleterre aussi, donc il y a une période de flottement. Et donc le fils de Charles VI, il a la vingtaine. Il est en bonne santé, lui dit « Je veux être roi de France ». Il s'autoproclame Charles VII. Mmh. Et le gros souci, c'est qu'il ne peut pas se faire couronner à Reims. Reims, c'est la Champagne, on est dans la zone d'influence du duc de Bourgogne, allié de l'Angleterre, donc c'est très compliqué. Et Jeanne d'Arc, à ce moment où elle arrive, elle dit dans son enfance entendre les voix de Saint-Michel, qui lui disent de bouter les Anglais hors de France, faire sacrer le dauphin, c'est bien Charles VII, le roi qui n'a pas encore eu son sacre à Reims. Et donc elle va aller voir le roi au château Chinon, il lui prête une armée de 2200 hommes, elle file vers Orléans sur la ligne de front, et miracle, elle gagne la bataille. Voilà, 8 mai, encore une bonne date, 1429. Et là, c'est la surprise, même le roi de France se dit, mais s'y attendait pas. Et on se dit, bah, pourquoi pas faire sacrer le roi, notamment à Orléans. Et Jeanne d'Arc insiste, elle dit, non mais sire, la cathédrale du Sacre, c'est Reims, c'est la Champagne, allons à Reims. Donc on a un mois de bataille, le long de la Loire. Juillet 1429, le roi et Jeanne d'Arc arrivent à Troyes. Donc on a fait envoyer une lettre aux Troyens en disant « Voilà, on vous pardonne d'être passé côté anglais, ouvrez vos portes ». Les portes sont ouvertes, on continue le périple, Jeanne d'Arc fait dicter une lettre pour les Chalonnais. Alors on la cherche toujours aux archives, on ne la trouve plus, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais on sait qu'elle a existé sur le modèle de celle de Troyes. Et là, bah, les Chalonnais vont ouvrir leurs portes. Jeanne d'Arc arrive à Châlons, il y a 14 000 habitants à l'époque, elle arrive avec 14 000 personnes, des soldats, des familles, tout le monde suit Jeanne d'Arc, c'est du délire complet. Et elle va arriver par la rive gauche de Châlons, ça va être notre actuelle rue Jeanne d'Arc, justement, c'est le chemin qu'elle a suivi. Elle prend le pont de Marne, qui ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, c'est un pont en bois, et elle va arriver directement à la cathédrale Saint-Étienne, Tédéum, pour elle et pour le roi de France, la foule est en délire, on double la population en 48 heures, et on est le 14 juillet 1429.
Alors, on est quand même plus dans la ferveur chrétienne que dans l'action du combat.
Oui, effectivement, on a ça, on se dit, on croit cette foi de Jeanne d'Arc, elle devient vraiment la figure catholique, et on se dit, là, il y a du miracle dans l'air, donc tout le monde la suit. Et donc ce moment-là, il est important, 14 juillet, le roi de France est pris d'un doute. On retrouve ça aux archives grâce à l'abbé Champenois, dans les vieux livres. Elle nous dit que le roi de France va se tourner vers Jeanne d'Arc, près de la cathédrale, et lui dire... Mais Jeanne, que faisons-nous si les bourgeois de Reims n'ouvrent pas leurs portes ? Et Jeanne d'Arc va lui répondre, ne vous inquiétez pas, messire, vous allez recouvrer l'intégralité de votre royaume. Et Jeanne d'Arc va partir en prière dans la cathédrale Saint-Étienne. Elle revient voir le roi, qui est toujours en plein doute, il est très anxieux, et lui dit, Jeanne, que faisons-nous si vraiment les bourgeois de Reims n'ouvrent pas leurs portes ? J'ai pas de machine de guerre, j'ai pas de catapulte, il veut pas se lancer dans un siège. Et Jeanne d'Arc a 17 ans, elle regarde le roi droit dans les yeux, et elle lui dit « Messire, messire, ne doutez pas, agissez donc comme un homme ». Voilà, 17 ans, boum, pour le roi de France. Et ça fait un électrochoc pour Charles VII, qui à l'issue de ce moment se laisse convaincre d'aller à Reims, et là il quitte Châlons le lendemain, 15 juillet 1429, et le roi est sacré à Reims le 17 juillet, c'est le tournant de la guerre de 100 ans. Voilà, il retrouve de la légitimité, on était plutôt en posture de perdant, là on a une dynamique de victoire.
Comme quoi le moral.
Oui, ça tient pas grand-chose.
On sait où ils ont dormi cette fameuse nuit du 14 juillet.
Effectivement, mais quand on se balade dans Châlons, vous allez place de la République, l'hôtel du Pot d'Étain. Il existe depuis 1405-1402 aux archives. Et ça, c'est le lieu, vous avez une belle plaque. J'invite les auditeurs à aller voir. Les capitaines de Jeanne d'Arc, donc c'est Lahire, Gilles de Rais, La Trémoille et compagnie, vont dormir dans cet hôtel. Et Jeanne d'Arc, bah, c'est grand luxe. Voilà où est-ce qu'elle va dormir. L'ancien palais de l'évêque de Châlons, mais il était au niveau presque du collège Saint-Étienne, le cours Saint-François d'Assise actuel. Le roi va dormir là, Jeanne d'Arc va dormir là aussi.
D'accord. Et donc, il reste des traces, quelque chose, peut-être le... Alors, notamment au Pot d'Étain, peut-être une chambre qui indique aussi, c'était là.
Voilà, on sait qu'apparemment, au premier étage, voilà, les capitaines étaient là. Donc, imaginez 14 000 personnes qui arrivent avec Jeanne d'Arc, ils sont déjà 14 000 à Châlons, voilà, il faut camper quasiment.
Oui.
On sait que le papa de Jeanne d'Arc aussi est venu spécialement de Don Rémy pour voir sa fille, justement, à Châlons. Et donc les traces, on a une belle plaque quand vous allez dans la rue de Marne, pas très loin du rond-point de l'hémicycle, avant la pizzeria. Il y a une plaque qui a été apposée en 1929 pour les 500 ans, si je compte bien c'est ça, 500 ans, du passage de Jeanne d'Arc, il y a une magnifique plaque. La tête de Jeanne d'Arc, et on vous dit qu'elle est passée par là, 14 et 15 juillet 1429.
Passionnant.
Je bois ces paroles encore.
Et moi je dis souvent que sans le passage de Jeanne d'Arc à Châlons, voilà, et par la Champagne, on parlerait peut-être encore anglais dans la région, effectivement, parce qu'on était en très mauvaise posture. Donc c'est deux jours qui changent l'histoire de France, et on se souvient d'elle, on a des vitraux dans la cathédrale Saint-Étienne, offerts par Monseigneur Tissier en 1938. Vous rentrez dans la cathédrale, vous levez les yeux droit devant, il y a une rosace avec Saint-Joseph, Saint-Michel d'un côté, Jeanne d'Arc de l'autre, avec justement la chevelure et la croix catholique.
D'accord.
On a aussi une statue qui est derrière la cathédrale, qui date de la fin 19e siècle, et c'est une des 5 ou 6 statues existantes de Jeanne d'Arc, où elle n'est pas représentée en chevalier, mais en bergère, à Don Rémy, en train de prier, quand elle entend ses voix.
D'ailleurs, quand on passe à Don Rémy, il y a toute une histoire aussi qui est reconstituée et qui, je pense, fait l'histoire de Don Rémy. Sinon, se souviendrait de Don Rémy?
Voilà,
autrement.
Effectivement, c'est vrai, ça rend les choses célèbres. Et c'est vrai qu'en 1918-1919, il y a Walt Disney qui est dans la Croix-Rouge américaine comme ambulancier. Eh bien, il a fait visiter au fils du général Pershing, le général en chef de la mer américaine, il lui a fait visiter, pour ses 10 ans, la maison de Jeanne d'Arc à Don Rémy, lui a fait la visite guidée. Donc, voilà, même Disney, il est passé par là, effectivement.
Pour revenir un peu en arrière, comment Charles VII se laisse convaincre par une gamine de 17 ans de monter une armée?
Alors, elle est assez convaincante, apparemment. Alors, quand ils ont un entretien au château Chinon, c'est un entretien privé, on ne sait pas du tout ce qu'ils se sont dit. Mais ce qui va ressortir, c'est que Jeanne d'Arc, elle a une rhétorique d'avocat. Effectivement, elle n'a pas été à l'école. Elle fréquente les religieux, donc elle a une super rhétorique, elle n'écrit pas. Et donc, elle arrive à convaincre le roi de France, vraiment, par la ferveur, la foi. Elle va sur le côté catholique, elle dit, voilà, elle lui pose des questions, elle répond, mais tout de go. Et le roi se dit, c'est pas possible. C'est pas que c'est suspect cette affaire-là, mais elle a l'air convaincue. On croit ses paroles, effectivement. Et le roi de France se dit, vu la situation dans laquelle il est, prêter 2000 hommes, ça coûte pas grand chose, c'est un peu le tout pour le tout. Il se dit, je prête l'armée, si ça se passe mal, bah, j'aurais essayé. Si ça marche, voilà, on connaît la suite.
Il a eu des détracteurs quand même.
Oui, oui, oui. Dans la cour royale, on avait notamment, alors dans la cour, il y en avait beaucoup qui lui disaient, mais voilà, Jeanne d'Arc, c'est une ignorante. Voilà, c'est une fille du peuple. Pourquoi lui confier une armée? C'est une femme. Plus à l'époque, on va dire, voilà, c'est une femme en chevalier, voilà, qui conduit des hommes dans l'armée. Donc il y a beaucoup de personnes qui disaient au roi, méfiez-vous de Jeanne d'Arc. À la suite, elle recrute des soldats sans vous. Un jour, elle va vous doubler. Complot, elle va peut-être vous renverser.
Il manquerait plus qu'il y ait une femme au pouvoir.
Voilà, à cette époque-là.
Mais il ne faut pas oublier non plus qu'en 1429, à 17 ans, ça faisait déjà longtemps qu'elle était sortie de l'enfance et de l'adolescence.
Ah oui, oui, oui.
À 17 ans, les femmes étaient déjà mariées, 3-4 enfants.
Oui,
c'était
oui.
Déjà...
C'était pas la même époque. Hein.
Complètement, voilà. Oui. Elle est complètement à contre-courant. Elle a cette ferveur, effectivement. Elle mène les hommes à la guerre et elle gagne. Elle a des stratégies, on retrouve tout ça, où on se dit... Bah, pour quelqu'un qui n'est pas issu d'une académie militaire, qui n'est pas noble officiellement, elle a quand même une science technique assez impressionnante.
Elle était guidée par Dieu.
Voilà, effectivement, et c'est ça qui la guide tout du long. Alors quand elle continue les batailles, elle va perdre la bataille de Paris, notamment. Compiègne et en Picardie, elle est faite prisonnière par les hommes du duc de Bourgogne. Et alors là, le fait qui est accablant pour le roi de France, demande de rançon a été faite, le roi de France n'a pas voulu payer. Ça, là, officiellement, il y a quelques années, on a retrouvé... Justement parce que ses conseillers avaient dit, bah, regardez Jeanne d'Arc, là elle fait de l'ombre, effectivement.
Et encore une fois, c'était une femme.
Voilà, et donc il y a ce côté un peu qui dérange, il y a la loi salique, on ne veut pas qu'une femme... C'est la première femme chevalier, je dirais, dans l'histoire de l'Europe. Et ça, c'est assez fort, mais on se dit, allez, elle a fait ce qu'il faut maintenant, bon, place au roi, place à la diplomatie.
Et la vie d'une femme valait rien.
À cette époque-là, oui, effectivement. En plus, elle ne se marie pas, on ne lui connaît pas d'amant ou quoi au caisse. Elle est dédiée à sa tâche, et elle voulait monter jusque Calais pour vraiment bouter les Anglais hors de France.
C'est le côté un peu lâche de l'histoire.
Voilà, effectivement, et ça s'est avéré depuis quelques années. On a les preuves que Charles VII n'a pas voulu payer. Donc elle est vendue aux Anglais, on connaît la suite, l'abbé Cochon va instruire le procès. Un Français à Rouen en zone anglaise. Et on a Alors tout le procès est retracé. Il y a un livre qui a été fait par un avocat récemment qui reprend les textes et qui commente. Et elle a cette rhétorique d'avocat. À un moment, l'abbé Cochon lui dit : mais Jeanne, voilà, d'où viennent vos voix ? Et elle dit : mais c'est entre mes voix et moi-même. Déjà, bon, on se dit : elle répond pas. Et à un moment donné, l'abbé Cochon lui dit : mais nous sommes vos juges, soumettez-vous à notre jugement. Et ils lui disent, mais méfiez-vous, répondez aux questions. Et là, Jeanne d'Arc leur répond, vous qui prétendez être mes juges, vous méfiez-vous. Et là, tout le monde se dit, c'est une sorcière, ça y est, elle a balancé une malédiction. Et ça va la suivre, l'histoire de la sorcière. Ce sont les Anglais, mécontents d'avoir perdu Orléans, qui vont dire, bah, c'est une femme, 17 ans, conduit les hommes à la guerre, elle gagne, elle a une blessure à l'épaule pendant la bataille, elle s'en remet, c'est louche, c'est une hérétique. Voilà, ça c'est les Anglais.
De plus, l'histoire dit qu'un chat noir est passé devant le bûcher, donc ça en rajoute.
Il y a plein
un
de signes,
peu...
voilà, complètement. Donc 19 ans, elle est brûlée vive pour hérésie, effectivement, et elle a changé cette histoire de France. 15 ans après, on gagne la guerre de 100 ans, Charles VII fait un procès en révision, et il revient à Châlons, il fait une visite officielle, par rancunier, avec son fils, le dauphin, qui l'a marié à une princesse Stuart, la famille de la fameuse Marie Stuart, reine d'Écosse, plus tard. Et là, Jeanne d'Arc, elle a sa revanche, moi je dis ça avec humour, mais quand même du sérieux. Le prince et la princesse, ils vont passer le pont des Archers. Alors le Jard est insalubre à l'époque, il est hors des remparts. Et le prince et la princesse, ils vont se bécoter dans le Jard, on va dire comme ça, à plus de minuit. Il fait froid, la princesse, elle commence à tousser. On reprend les remparts, on va dormir à l'évêché, le palais de l'évêque. Et là, la princesse est gravement malade, pneumonie. 3 jours plus tard, elle décède. Moralité, pas de reine du trône britannique sur le trône de France. Après Jeanne d'Arc, elle a eu sa petite revanche, au final.
D'ailleurs, les Stuarts ont toute une lignée comme ça, assez sombre.
Effectivement, ils n'ont pas eu de chance. Ils sont un petit peu maudits. Et donc, Châlons, voilà, quelques statues. Il y a une statue de Jeanne d'Arc dans l'église Saint-Alpin et une qui est aussi dans la cathédrale. Donc elle est visible, et donc Châlons, c'est une ville de Jeanne d'Arc.
Voilà, nous étions à fond derrière, et nous étions précurseurs pour les femmes au pouvoir. Merci beaucoup,
Aurélien.
Merci, Aurélien.